Radio Campus 106,6 FM et www.campuslille.com, les points sur les i du collectif Davies. C'est au tour de camarade Christophe de parler.
Bien, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, et puis oublier, c'est se condamner à revivre. La veille des événements plus que tragiques, il n'y a pas de mots, qui ont ensanglanté notre capitale, notre pays, et qui rappellent que la barbarie frappe en tout lieu, je faisais remarquer à une amie que les JT, nationaux et autres, insistaient sur le fait qu'en une seule journée, il y avait 800 000 personnes en France pour voir le dernier James Bond. Le lendemain, on est passé non pas à un film qui s'appelle Spectre, mais à autre chose, c'est-à-dire une espèce de James Bond infernal sur le terrain. Une espèce de rappel à l'ordre. C'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas simplement devant sa télé et loin à la périphérie, c'est au coin de sa rue, de son café. Alors, je ferai une chronique avec humilité en posant des questions. C'est-à-dire, je ne vais pas faire en quelque sorte une exposition de ceci ou de cela, je ferai simplement des questions. Première question, Bruxelles. Des experts, dont je voudrais savoir, à moins qu'ils ne soient simplement de pro-lecteurs, quels sont leurs titres de noblesse sur le terrain, et qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, j'ai bonne mémoire, avant et après Charlie Hebdo et depuis, et qui se promènent d'un JT à l'autre, nous expliquent qu'à Bruxelles, il y a une commune qui serait un vivier à plusieurs reprises de terroristes. Je rappelle qu'à Bruxelles, on a un triangle. On a à la fois des évadés fiscaux français qui considèrent qu'ils paient trop d'impôts, mais maintenant on va nous expliquer qu'il faut plus de moyens pour la police, pour les sapeurs-pompiers, pour les infirmiers. Donc je trouve que là, il y a une espèce de contradiction qu'il faudrait pointer, c'est-à-dire est-ce que ces Français qu'on peut nous vendre comme exemplaires au niveau de je ne sais quelle réussite business d'un seul coup ne sont pas, je ne dirais pas responsables, mais enfin concernés aussi et devant s'interroger sur, en quelque sorte, leur solidarité très concrète. Et il y a aussi à Bruxelles la Commission européenne qui est présidée par Juncker, qui, tout le monde peut vérifier, était le grand responsable de la corruption et de l'évasion fiscale pour son petit État croupion. Voilà. Ce qui prouve que dans la même ville peuvent parfaitement cohabiter un vivier de terroristes, un homme responsable de la corruption et qui est quand même en poste, et des évadés fiscaux d'un pays dont on vient nous expliquer maintenant qu'il faut plus de moyens pour ceci, plus de moyens pour cela, je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, les moyens, eh bien, il faut payer ses impôts, tout le monde comprendra. Deuxième remarque, en ce qui concerne l'état d'urgence. Alors là, j'ai bonne mémoire, la dernière fois, c'était en 1962. En 1962, l'état d'urgence, c'est le général de Gaulle. François Hollande a été conseiller à l'Élysée ainsi que Ségolène Royal. Il est maintenant chef de l'État. Il est issu du Parti socialiste. Et François Mitterrand, résistant à partir de 1942, décoré de la Francisque et qui a reçu le responsable de la persécution des Juifs, René Bousquet, lors de son second septennat à Lacé, dans sa résidence secondaire, eh bien, avait décrété que le général de Gaulle, c'était le coup d'État permanent. D'autres ont dit que c'était pour Mitterrand le coup d'éclat permanent. Je trouve que François Hollande, issu directement de la même mouvance et des catacombes de l'Élysée de François Mitterrand, s'inscrit très douillettement dans, en quelque sorte, alors, l'institutionnalisation de l'état d'urgence, en point d'interrogation.
Petite précision sur l'historique de l'état d'urgence, Mitterrand l'avait instauré en Nouvelle-Calédonie en 84.
Absolument.
Et la dernière fois que ça a été instauré en France, c'était en 2005 dans les banlieues après les
émeutes. Et François Mitterrand, c'est pour ça que j'ai commencé ma chronique comme « Oublier, c'est se condamner à revivre », etc. François Mitterrand a été ministre responsable sous la 4e République du dossier de l'Algérie française. Bien. Autre remarque. En ce qui concerne maintenant, tout simplement, Daesh. On nous explique maintenant, j'entends des chiffres mirobolants, que Daesh a un trésor de guerre de 30 milliards. Bien. Financé par des contrebandes de tout ordre, des trafics sordides d'êtres humains et principalement le pétrole. Alors, tout le monde sait, enfin, tout le monde sait que c'est la Turquie qui achète. Enfin, la Turquie, notre allié dans l'OTAN. Et en ce moment, il vient d'avoir un sommet avec François Hollande, Obama, etc., et la Turquie. Je me pose des questions. Depuis quand on n'a pas demandé au camarade président Erdogan de faire un peu le ménage ? Bien. D'autre part, la Turquie aussi réprime les Kurdes. Or, ce sont les Kurdes qui sont en première ligne sur le terrain. Ils ne sont pas dans leurs avions face à Daesh. Donc là, il y a un petit problème par rapport aux alliés. Un petit problème par rapport à nos alliés. Et la Turquie laisse aussi passer, en quelque sorte, des personnes qui viennent de Syrie et qui viennent commettre des actes terroristes barbares dans nos démocraties. Donc là, par rapport à la Turquie, il y a une petite explication de texte. Et d'autre part, je tiens à rappeler que ces 30 milliards, s'il y a 30 milliards, vous savez, on ne peut pas rentrer, 20 milliards, je pense qu'ils ne sont pas dans des petites valises. Donc ils sont dans des banques. J'espère qu'on ne va pas découvrir qu'elles sont dans des banques qui seraient des filiales de grandes banques tout à fait prestigieuses et qu'on nous aille nous expliquer, comme d'habitude, que les présidents directeurs généraux de ces grandes banques ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe dans leurs filiales. On a déjà eu de telles explications de texte. Donc, comme le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, nous parle de transparence, eh bien, j'espère que la transparence sur où est l'argent, dans quelle banque. Et quand Mme Marine Le Pen sort de l'Élysée et parle de financement de milliardaires saoudiens ou qataris, eh bien, mais quels sont ces milliardaires ? J'espère qu'on ne les a pas déjà reçus à Paris au Ritz. J'espère qu'ils ne font pas leurs emplettes chez Louis Vuitton ou chez Hermès, qui appartiennent à M. Arnault, qui se trouve à Bruxelles, c'est-à-dire le mélange des genres et des compromis. Je sais bien que l'argent n'a pas d'odeur, mais la transparence, c'est ça. L'argent, il est où ? Et puis d'autre part, le pétrole, ça se promène pas avec des petites pipettes. Il faut des camions, des gazoducs. Je ne comprends pas. On a des satellites. Je pose des questions. On n'a pas réussi à bombarder ce truc-là. Bon, la France vient de riposter au bout de 48 heures sur des cibles stratégiques, donc satellites, etc. Cocorico. Ben, j'ai envie de dire pourquoi on ne l'a pas fait avant. Le ministre de l'Intérieur vient nous annoncer, je viens de le voir tout à l'heure, un catalogue très martial d'interpellations, de perquisitions, de mosquées fermées, de suspects classés S arrêtés. On vient d'apprendre la transparence qu'il y en avait 5000 en France. Et on nous explique qu'ils étaient surveillés à distance. Ah bon ? Mais enfin, la dernière fois qu'il y a eu en France une rafle, elle a été très vite organisée et très discrètement. C'était en 1942, c'était les Juifs de France, avec beaucoup de discrétion et que la coopération de la police de l'époque, je ne dis pas que la police actuelle, ça n'a strictement rien à voir, mais enfin, le jour où j'ai eu ce mot de l'esprit de le dire à des policiers français, j'ai fini en garde-vue, j'ai eu un mot d'esprit de trop, et ensuite on a présenté, comment dirais-je, des excuses pour me dire que c'était un malentendu. J'avais un mot d'esprit déplacé et un policier en face de moi qui ne connaissait pas son histoire nationale. Bon, ce qui prouve que quand on veut être efficace, on peut l'être. En France, à Paris, on est capable de rafler des hommes, des femmes et des enfants en 24 heures avec l'occupant nazi et la coopération de forces, à ce moment-là, dites nationales pétainistes. Bien, voilà. J'ai mauvais esprit, je me permets de rappeler l'histoire. Continuons les informations. Donc, tout le monde a bien compris que je parle de financement. Tout le monde a bien compris que cela ne date pas d'hier. Tout le monde a bien compris que le pétrole, ça ne se promène pas dans des petites pipettes et que les satellites peuvent savoir où sont les camions et où sont les pipelines. Et puis, l'unité nationale. Alors, l'unité nationale, où tout le monde sait qu'on a des élections régionales, je suis frappé que, comme disait le général de Gaulle, les affaires de boutiquier. Tout le monde sort de l'Élysée en racontant sa petite histoire, etc. etc. Alors, M. Sarkozy, lui, déclare en sortant ancien chef de l'État. Je tiens à le rappeler, peut-être que des gens l'ont oublié. Est-ce que des gens oublient qu'il était chef de l'État ? Et il n'y a pas 1000 ans. Alors, il dit, les Français ne sont plus en insécurité, ce qui est très chic au niveau de l'unité nationale. Mais lui, est-ce qu'une fois dans sa ville, il était en insécurité ? Il vient de Neuilly. Et il a un service rapproché, payé par l'État. J'espère qu'il a exigé que ce soit doublé. Voilà, enfin, question d'humour.
J'ai pas surveillé son statut Facebook s'il avait cliqué sur « en sécurité ».
Non, je dis simplement que je rappelle cette phrase du général de Gaulle. À certains moments de l'histoire exceptionnelle, il y a les boutiquiers et il y a ceux qui simplement se taisent, connaissent les dossiers, vont sur le terrain et essaient de servir leurs valeurs d'humanisme, mais d'épargner le sang, certes, mais d'être efficaces, tout simplement. D'autre part... Continuons. En ce qui concerne des déclarations du ministre de l'Intérieur sur la coopération des polices européennes. Enfin, Bruxelles, donc, ce quartier. Enfin, si la police belge est incompétente, faute de moyens, je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, moi, bah, il fallait l'aider. Parce que si on coopère avec des polices incompétentes, à quoi ça sert ? On parle des frontières. Bon, en ce qui me concerne comme citoyen français, j'ai déjà été dans ma vie deux fois contrôlé la frontière belge. Je n'ai pas eu de problème, bien sûr. Et j'ai même été contrôlé une fois avec mon camarade Baptiste à Paris. N'est-ce pas ? On s'était garé et puis on nous a demandé de fouiller le camion qu'on avait pour voir si on n'avait pas des armes. Nous avons tout à fait des profils de terroristes, tout le monde aura compris, ce qui prouve que là aussi je me pose des questions, car le terroriste Abdel Salem Salah a pu passer et revenir en 24 heures et traverser la frontière franco-bruxelloise. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire une grande différence entre les déclarations martiales et l'efficience de certaines mesures sur le terrain. D'autre part, toutes ces mesures, mosquées salafistes fermées, perquisitions administratives, etc., le ministre dit... On accélère. Ah bah oui, oui, forcément, on accélère. Les choses se sont accélérées. Mais enfin, j'en viens de dire trop peu, trop tard. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Enfin, pourquoi on n'a pas bombardé ce qu'on vient de bombarder à Raqqa avant ? Pourquoi ? Je pose des questions. Je n'en sais rien. Moi, je pose des questions. Voilà. Alors, chacun pensera ce qu'il veut. Je tiens simplement à rappeler aussi que je suis aussi frappé de certains journalistes qui sont toujours surexcités de cette adrénaline et qui ont des commentaires effarants, parfois après avoir interviewé des personnes frappées par leur émotion, c'est-à-dire un total décalage. La couverture de Charlie Hebdo, c'est Génération Bataclan. La dernière fois, c'était « Je suis Charlie ». Ce n'est pas à coup de slogan et ce n'est pas simplement... en ne mettant pas tous les dossiers, financement, responsable, compromis, etc., etc., sur la table, que l'on pourra éclairer nos lanternes. J'espère que les responsables politiques, militaires, spirituels, et chacun sera à la hauteur de la situation et ne faisant pas d'amalgame outrancier comme d'habitude. Et je vais laisser la parole à Baptiste parce que je ne suis pas capable en ce moment de lire pour lire avec une touche d'humour laïque un texte...
Bah, je ne sais pas si c'est la touche d'humour laïque par rapport à ce que tu disais, pourquoi on ne les a pas frappés avant. Je trouve le texte que tu as choisi un peu en décalage.
Pour ça que j'ai choisi, parce qu'il est en décalage. J'ai dit que ma chronique s'était posée un certain nombre de questions.
Ok, donc je lis pour toi. Voilà. Conclusion de ta chronique. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Saint François d'Assise.
Merci Baptiste d'avoir lu ce texte que je ne peux pas lire. Pour mes camarades auditeurs, je tiens à préciser que les deux citations « Oublier c'est se condamner à revivre » et « L'histoire ne répète pas, elle bégaye » sont de Winston Churchill, ce qui prouve que j'ai de l'humour. Je peux commencer par citer Churchill et terminer par Saint François d'Assise. Voilà, ça s'appelle « La civilisation ».
Brosse à dents, j'ai gagné la lune du ramadan. J'ai perdu tous les combats de la terre. J'ai gagné la ville engloutie en mer. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. J'ai perdu la foi et la liberté. J'ai gagné la vie et la mort mêlée. J'ai perdu la médaille et le revers. J'ai gagné Babar et son habit vert. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. J'ai gagné l'amour fou du roi des lions. J'ai perdu la raison et le chemin. J'ai gagné l'art de délirer sans fin. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine. Il y a une drôle d'odeur dans la cuisine.